aujourd'hui à Washington.
Bonsoir à tous, c'est Eric Manelakiza en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans cette édition de 17h30 temps universel. Vous suivez le monde aujourd'hui du mercredi 22 août 2018. D'abord les titres. Attaqué hier soir dans le sud du Burkina Faso contre un poste douanier, une personne tuée, des armes volées au Congo. L'ex-chef rebelle Ntoumi fait un pas vers le désarmement mais pose des conditions. Au Zimbabwe, la Cour constitutionnelle examine le recours de l'opposition qui conteste les résultats de la présidentielle. Le président Donald Trump discrédite son ex-avocat qui affirmait lui avoir demandé de violer les lois sur le financement des campagnes électorales. Et dans 10 minutes, votre page des sports et l'actualité économique. Un groupe rebelle tchadien basé en Libye revendique une attaque contre deux mines d'or à Kouri Bougoudi dans le Tibesti. Le ministre de la Sécurité au Tchad a démenti l'information. Le point avec Idriss Fall.
Le conseil du commandement militaire pour le salut de la République affirme avoir mené hier une attaque contre deux mines d'or dans la localité de Kouri Bougoudi, proche de la frontière libyenne. Mais Ahmad Bachir, le ministre tchadien de la Sécurité, assure qu'il n'y a pas eu d'attaque hier dans cette localité et que ce sont des allégations mensongères des mercenaires. Samedi 11 août, le groupe rebelle avait déjà revendiqué une autre attaque qui, selon un de ses porte-parole, avait fait 73 morts et 45 prisonniers du côté de l'armée et 4 morts du côté des rebelles. Par la suite, l'armée tchadienne a affirmé avoir lancé jeudi 16 août une intervention aérienne et terrestre vers les localités aurifères de Kouri Bougoudi et de Miski, après un ultimatum de 24 heures aux populations locales qui ont été sommées de quitter les lieux. Le gouvernement de N'Djamena n'a annoncé aucun bilan pour cette opération.
Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition. Un douanier burkinabé a été tué hier soir dans une attaque contre un poste de douane à Bati dans le sud du Burkina Faso. La région est réputée être une zone de trafic divers ou écumant. Des bandits qui multiplient également les assassinats. Bagassi Koura.
Hier soir, vers 20h30, 6 individus armés non identifiés ont attaqué le poste de douane de Batié, frontalière de la Côte d'Ivoire et du Ghana, dans le sud du Burkina Faso. Un douanier a perdu la vie au cours de cette attaque qui a duré près de 2 heures. Selon des habitants, des tirs nourris puis sporadiques ont été entendus jusqu'à minuit, suscitant une psychose au sein de la population qui célébrait la fête de l'Aïd El-Kébir ou Tabaski. Plusieurs magasins et boutiques sont toujours fermés au lendemain de cette attaque, première du genre dans cette région. Le poste de douane a été saccagé, le matériel informatique et roulant, notamment 2 motocyclettes, ont été incendiés selon des sources sécuritaires. Un pistolet automatique et une Kalachnikov ont également été emportés.
Bagassi Koura au Mali. Au lendemain de la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a appelé hier les Maliens à l'union et à la réconciliation nationale face aux défis du terrorisme. L'organisation Human Rights Watch a dénoncé le harcèlement croissant des journalistes et le climat de peur instauré par les agences de sécurité au Nigeria. Le journaliste Jones Abiri, journaliste au Weekly Source Newspaper, et Samuel Ogundipe, journaliste pour le site en ligne Premium Times, sont jugés en lien avec l'exercice de leur profession. Au Cameroun, les autorités ont interdit aujourd'hui la tenue en septembre d'une manifestation du Social Democratic Front, le principal parti d'opposition. La protestation vise à dénoncer l'existence de bureaux de vote illégaux pour la présidentielle du 7 octobre. Les groupes armés en Centrafrique ont présenté près de 100 revendications, dont l'amnistie générale au panel d'experts de l'Union africaine qui organise une médiation avec le gouvernement. C'est notamment le partage des pouvoirs et gouvernement d'union nationale, construction de routes, amnistie générale ou encore restructuration de l'armée. Une délégation du Conseil œcuménique des Églises en visite en RDC a exprimé son inquiétude hier à propos du processus électoral. La grande préoccupation est fondée sur la question des électeurs inscrits sans empreinte digitale, du besoin de consensus et de confiance au sujet de l'utilisation de la machine à voter. Le cas des prisonniers d'exilés politiques a été aussi soulevé. De son côté, le mouvement pro-démocratie Lucha a appelé à des marches le 3 septembre à travers tout le pays pour exiger l'abandon des machines à voter. Au Zimbabwe, la Cour constitutionnelle examine le recours de l'opposition qui demande l'annulation de l'élection du président Emmerson Mnangagwa. Elle accuse le gouvernement de fraude et la commission électorale de manipulation des résultats. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
La Cour constitutionnelle a commencé l'examen du recours déposé par l'opposition. Elle a jusqu'au 24 août pour prendre sa décision. Devant les 9 juges, les avocats du mouvement pour le changement démocratique ont énuméré les irrégularités qui ont entaché, selon eux, le scrutin du 30 juillet. Il s'agit là d'une tentative massive de dissimulation. Nous sommes confrontés à une tentative de manipulation grossière, a résumé l'un d'eux, Tabani Mpofu. Il a ajouté que les observateurs du MDC ont remarqué que dans 16 bureaux de vote, les résultats sont identiques, le même nombre de voix pour Chamisa et Mnangagwa, ce qui paraît louche selon lui. L'avocat du MDC a aussi accusé la commission électorale de mensonge, pointant du doigt les rectifications des résultats qu'elle a annoncés. Il a conclu que le scrutin doit être annulé et qu'une nouvelle élection est inévitable. La requête du MDC a déjà provoqué le report de la cérémonie d'investiture d'Emmerson Mnangagwa, initialement prévue le 12 août. Si la Cour confirme sa victoire, il devra être investi dans les 48 heures qui suivent sa décision.
Et de nouveaux tarifs en très forte hausse au Mozambique pour l'enregistrement et l'accréditation des journalistes locaux et étrangers dans le pays. Un journaliste étranger doit désormais payer l'équivalent de 1 500 euros et jusqu'à 7 500 euros par an s'il souhaite s'installer en tant que correspondant d'un média étranger. L'augmentation frappe tout autant les médias locaux. La taxe exigée par les autorités pour enregistrer une chaîne de télévision est passée à 45 000 euros. Les prochaines élections locales sont prévues dans moins de 2 mois. Au Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a enregistré 46 candidats pour l'élection présidentielle prévue à la fin de l'année. Les 3 derniers chefs d'État de l'État sont en lice. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Et l'ancien président des Comores, Ahmed Abdallah Sambi, au pouvoir de 2006 à 2011, a été inculpé et placé en détention pour corruption, détournement de deniers publics, complicité de faux et usage de faux et forfaiture. C'est dans le cadre d'une enquête sur des détournements de fonds opérés lors d'une vaste fraude au passeport. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a gracié 188 personnes liées au mouvement de protestation Irak condamné en fin juin. Le monarque leur a accordé la grâce à l'occasion de la fête religieuse de l'Aïd al-Adha. Quelques 115 migrants ont pénétré aujourd'hui dans l'enclave espagnole de Ceuta. Ils ont escaladé la haute clôture frontalière avec le Maroc, blessant légèrement plusieurs agents.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, Paul Manafort, l'ex-chef de campagne de Donald Trump, a été condamné pour fraude fiscale. Le président américain tente de discréditer son ancien avocat Michael Cohen, qui l'a impliqué devant un juge de Manhattan dans la violation des lois sur le financement des campagnes électorales. Retour sur ces deux affaires avec Morgane Guiriac.
À New York, devant un juge fédéral de Manhattan, Michael Cohen, ex-avocat de Donald Trump, a plaidé coupable de 8 chefs d'accusation de fraude fiscale et bancaire et de violation des lois sur le financement des campagnes électorales. Michael Cohen a reconnu avoir versé 130 000 dollars et 150 000 dollars, respectivement, à l'actrice porno Stormy Daniels et à Karen McDougall, une ex-playmate du magazine Playboy, en échange de leur silence, et ce, à la demande du candidat et avec l'intention d'influencer l'élection. Au même moment, le tribunal d'Alexandria, près de Washington, a reconnu Paul Manafort, ancien directeur de campagne de Donald Trump, coupable de fraude bancaire et fiscale. Il s'agissait du premier procès dans l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016, conduite par le procureur spécial Robert Mueller. Pour Donald Trump, cette décision est un nouvel épisode de la chasse aux sorcières que constitue à ses yeux l'enquête Mueller.
Morgan, guerrier que le président russe Vladimir Poutine a jugé contre-productive et dénuée de sens les sanctions américaines contre Moscou. Elles ont été renforcées après sa rencontre avec Donald Trump. Le président de la commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur les violences à Gaza, le professeur américain David Crane, a démissionné pour raison personnelle. Monsieur Crane est l'ex-procureur en chef du tribunal spécial sur la Sierra Leone. Une résolution du Conseil des droits de l'homme de l'ONU a créé le 18 mai une commission d'enquête contre l'avis des États-Unis qui se sont retirés le mois suivant du Conseil qualifié de cloaque anti-Israël. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. La Minute Éco, signée Claire Morin-Gibourg.
Avec sa capacité de 3 millions de containers, le port marocain Tangemed vient d'obtenir la première place africaine du classement de la revue spécialisée Container Management, devant Port Saïd en Égypte et Durban en Afrique du Sud. Tangemed est situé sur le détroit de Gibraltar, la deuxième voie maritime la plus fréquentée au monde. Il est en lien chaque semaine avec 174 ports à travers le monde dans 74 pays. Tangemed devrait conserver son leadership africain qu'à l'ouverture de Tangemed 2, qui permettra le traitement de plus d'un million de containers supplémentaires, est prévu en 2019. Bras de fer au Gabon entre la compagnie pétrolière Total et ses anciens cadres. Selon nos confrères de Financial Afrique, Total Gabon n'a pas répondu aux convocations du tribunal de grande instance de Port-Gentil pour une conciliation. La plainte déposée par des anciens cadres concerne le non-versement intégral de leurs droits à la suite d'un plan de départ volontaire à la retraite. Ethiopian Airlines se développe sur le continent. La compagnie vient de conclure des accords qui lui garantissent d'obtenir 49% des parts des compagnies nationales de Guinée et du Tchad. Selon son directeur général, Tewolde Gebremariam, Guinea Airlines se prépare à bientôt lancer des vols vers des pays voisins et de la région. Tchadian Airlines entrera en service le 1er octobre. Ethiopian Airlines possède également désormais 45% de Zambia Airways et la totalité de Equatorial Guinea Airlines.
Passons directement à la page sportive de ce soir, signée Nicolas Pinot. Bonsoir Nico.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Finalement, Clinton Ndié ne va pas rejoindre le Sporting Portugal.
Eh oui, l'attaquant camerounais de l'Olympique de Marseille ne sera finalement pas prêté au Sporting Portugal. Les deux clubs ne sont pas parvenus à un accord sur les conditions de ce prêt. Clinton Ndié est arrivé hier à Lisbonne pour être prêté au club portugais. Le joueur de 25 ans, qui s'était dit très heureux de rejoindre les Lions de Lisbonne en raison de l'ambition du club, aurait été recalé à la visite médicale selon des médias portugais. Ndié était arrivé à Marseille il y a 2 ans en provenance de Tottenham sous forme de prêt avec option d'achat. Lors de la saison dernière, l'international camerounais a marqué 7 buts en 22 matchs de championnat avec l'OM.
On parle de Thierry Henry, Nico, qui pourrait devenir l'entraîneur de Bordeaux.
En quête d'un successeur à Gustavo Poyet, dont la mise à pied devrait déboucher vendredi sur un licenciement, Bordeaux a misé sur Thierry Henry, champion du monde 98, prêt à son tour à devenir entraîneur. Le recordman des buts en équipe de France devrait se rendre aux États-Unis pour rencontrer les Américains de JACP, qui deviendront officiellement propriétaires des Girondins de Bordeaux le 28 septembre prochain.
Et Bordeaux joue en Ligue Europa ce jeudi.
Oui, Bordeaux se déplace demain en Belgique pour affronter la Gantoise en barrage aller de l'Europa League. Dans les autres affiches, le Celtic Glasgow, éliminé au 3e tour de qualification de la Ligue des Champions, ira défier les Lituaniens de Suduva des Marie-Jean-Paul, tandis que le FC Séville affrontera les Tchèques de Sigma Olomouc. Bâle recevra l'Apollon Limassol, l'Olympiakos accueillera Burnley et le Beşiktaş ira chez le Partizan de Belgrade.
Nico, qu'en est-il du barrage aller de la Ligue des Champions?
Le PSV Eindhoven, vainqueur de la Ligue des Champions en 88, a assuré l'essentiel en s'imposant à l'extérieur sur le terrain du Bate Borisov, 3-2. Les Lisboètes du Benfica Lisbonne se sont pris les pieds dans le tapis à domicile face au PAOK Salonique, 1-partout, tandis que l'Étoile Rouge de Belgrade a été accrochée sur son terrain par les Autrichiens de Salzbourg, 0-0. Ce mercredi, l'Ajax reçoit le Dynamo Kiev, tandis que l'AEK Athènes, tombeur du Celtic au tour précédent, se rend en Hongrie pour affronter Vidéotron.
Enfin, Cristiano Ronaldo rêve de remporter la Ligue des Champions avec la Juventus.
Turin.
Débarqué à Turin cet été après son transfert pour 100 millions d'euros du Real Madrid, Cristiano Ronaldo affirme qu'il allait se concentrer cette saison sur la Ligue des Champions.
C'était l'espoir de Nicolas Pinon. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Eric Manilakiza, de retour avec vous. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Le groupe rebelle tchadien, le Conseil du commandement militaire pour le salut de la République, a affirmé avoir mené une attaque hier contre deux mines d'or de la localité de Kouri Bougoudi, proche de la frontière libyenne. Idriss Fall a joint dans le sud de la Libye Mahamat Ali, commissaire aux affaires étrangères du groupe rebelle.
Déjà, on a attaqué le 11 août 2018 et après on s'est replié. Quelques jours, on a vu que le gouvernement était démoralisé. De nos forces sont rentrées dans les trois villes Kouri Bougoudi. Bilan des dernières attaques, il n'y a pas eu des accrochages entre notre force et les soldats têtes d'Idriss Déby. Quand on a rapproché les villes, ils sont fuis.
Mais le ministre de la Sécurité, Ahmad Bachir, affirme qu'il n'y a pas eu d'attaque à Kouri Bougoudi hier.
Donc on ne le croit pas. Donc on a publié les prisonniers et on a arrêté une vingtaine de prisonniers, donc toutes ces preuves sont là. Encore lui, ils nous disent que nous, on est des terroristes. Nous, on n'est pas des terroristes, on est des rebelles bien formés et bien entraînés. On a aussi retiré de la liste des terroristes au niveau du ministère des Affaires étrangères des États-Unis. Les FARA, donc Foreign Agency Registration Act, donc on a déjà le document, on est des sérieux. On ne dit pas n'importe quoi, on a un projet pour le Tchad.
Quel est le bilan de l'attaque du 11 août?
À peu près 20 quelques arrestations, une centaine tués, on a récupéré des véhicules et on a récupéré des armes anti-chars, anti-aériennes. Maintenant, on fait un appel, on attire toutes les communautés internationales pour dire qu'il faut que le Déby démissionne.
Mais l'armée tchadienne a lancé le 16 août une vaste offensive dans cette zone.
Mais nous, on n'a pas vu les soldats ou les soldats d'Idriss Déby. Ce qu'on a vu, on a fait un repli tactique. On voit reste que bien les soldats de Déby peuvent venir nous affronter. On a vu que ils sont démoralisés, donc ils n'arrivent pas à nous réciter pourquoi on a rentré sans combat.
Et votre objectif, c'est Faya Larjo ou bien Djamena?
Notre objectif, maintenant, on a un petit succès, ça nous ouvre vers la porte vers Djamena. On a un programme de gestion de la transition qui découle sur un dialogue et un programme de stabilisation rapide sur les périodes de 6 mois. Maintenant, on est en train de faire des programmes pour pouvoir gérer la transition tranquillement, et la gestion de cette transition doit répondre à 3 questions. Il faut qu'on maîtrise la situation sécuritaire, l'armée et le politico-militaire, maîtriser aussi le front social pour relancer l'administration du Tchad. C'est ça qu'on est en train de réfléchir avec nos partenaires, avec la société civile, avec les partis politiques.
Il y avait d'autres groupes rebelles qui avaient tenté de prendre Djamena et qui ont été mis en déroute.
Donc ces rebelles, c'est devenu une expérience pour nous, pour relancer une autre offensive. Aujourd'hui, c'est la seule alternative. Il faut faire partir Déby par la force. On a formé des rebelles, au moins un effectif de 7000 hommes. Vous avez vu les 2 dernières attaques. Donc ils n'ont pas résisté, donc on a écrasé. Après, donc il n'y a pas d'autre résistance. Je pense qu'il n'y a pas de résistance au niveau de gouvernance. Ça, c'est des flopeurs qui tapent des tambours. Vous avez vu les bilans des dernières attaques.
Mahamat Ali, commissaire aux affaires étrangères du groupe rebelle tchadien.
Raïssa Girondin avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Coup de projecteur sur la seconde chance d'Ibeka au Mali. Ibrahim Boubacar Keïta dispose de 5 ans de plus pour redresser un pays divisé et fragilisé par l'insécurité. Quels sont les défis qui attendent Ibeka pour ce nouveau mandat? Pourquoi la mise en place de l'accord de paix avec les rebelles traîne-t-elle 3 ans après sa signature? Quelles sont désormais les attentes de la population malienne et que laisse présager son désintéressement de la politique? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Au Congo-Brazzaville, le pasteur Ntumi est vu pour la première fois en public. C'était au village de Mihete, dans le Pôle, où il a rencontré une délégation gouvernementale. Il a invité les membres de la commission de paix à s'occuper prioritairement de lui avant de procéder au ramassage des armes dans le Pôle. À Brazzaville, la correspondance d'Arsène Séverin.
C'est un passeur en tout serein et rassuré, habillé en jean bleu, que les membres de la commission de paix ont rencontré à mi-été dans le district de Kindamba. Dans un échange réservé, les deux parties ont évoqué leurs difficultés dans la mise en œuvre de l'accord de paix conclu en décembre 2017. Pour Séraphin Ondélé, le président de cette commission, Ntoumi doit mettre la main dans la pâte pour permettre le ramassage des armes encore entre les mains de ces miliciens.
Nous croyons que vous êtes devenu un homme de paix. Nous venons vous dire, ma commission et moi, nous venons vous dire que nous sommes limités. Nous avons travaillé, oui. Nous sommes fiers d'avoir travaillé. Et maintenant, nous sollicitons que vous preniez le relais parce que c'est vous qui avez signé les accords de paix. Nous sommes que des ouvriers. Maintenant, nous sommes bloqués.
Le chef rebelle du Poule a indiqué que le ramassage des armes n'était pas une priorité. Il fallait s'attaquer au mal à la racine. Ntoumi s'est lui-même présenté comme le premier ex-combattant à réinsérer.
Et ce n'est pas le ramassage des armes qui va assurer les gens, mais ce sont les cœurs des gens. J'ai des enfants comme vous aussi, vous avez des enfants. À bientôt, il va pleuvoir. Comment je vais faire? Je vais repartir dans la forêt, trouver encore les feuilles pour faire encore des huttes. Et quand je vous rappelle ça, vous allez transformer pour dire que non, voilà, il pose des conditions, voilà ce qu'il dit, voilà, c'est peut-être qu'il ne veut pas, voilà, voilà. Alors que nous avons signé, c'est la partie gouvernementale qui a bloqué. Si nous sommes détenteurs d'une arme et que nous avons fait la paix, cette arme ne sert à rien. Nous devons la déposer, nous devons la remettre. Ce n'est pas ce qui est plus important. On peut remettre une arme, mais la situation qui a provoqué que un tel prenne une arme, si on ne l'a pas réglé, finalement c'est comme si ce qu'on a fait, on était comme des animaux seulement qui se sont battus.
C'est pour la première fois depuis le déclenchement du conflit dans le Poule en avril 2016 que le pasteur Ntoumi s'est montré en public. Par ailleurs, aucun agenda précis de l'opération du ramassage des armes n'a été arrêté. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a enregistré 46 candidatures pour l'élection présidentielle prévue les 7 novembre et 19 décembre prochains. Les trois derniers chefs de l'État sont en lice. Idriss Fall a joint en Antananarivo David Rajaon, directeur du think tank Y Politica.
En 2013, Madagascar a connu donc une élection présidentielle on a vu 39 candidatures en 2013. Là, on est à 46 candidats et récemment, donc, ça vient de tomber, 10 candidats ont été invalidés, donc au total, on a 36 candidats aujourd'hui.
Et la Cour doit se prononcer quand sur la liste officielle?
La liste officielle sera connue dimanche prochain, donc le 26 août. Et il faut dire que le nombre est plus de 30 candidats, mais c'est déjà beaucoup moindre que l'année 2013, en fait.
Et qui sont les candidats potentiels les plus connus et les plus en vue?
Naturellement, donc, il y a les anciens présidents. On a 4 anciens présidents de la République qui se présentent, et également le président de l'Assemblée nationale actuelle. Ils sont très connus, mais en même temps, en fait, on peut dire qu'ils ont aussi les moyens de leur ambition.
Et y compris notamment les deux anciens frères ennemis, Marc Ravalomanan et Ange Rajaoul.
Oui, ce sont les deux grands prétendants, en fait, de la magistrature suprême. On peut dire qu'ils se sont déjà préparés depuis longtemps. Et on remarque également que la campagne électorale a déjà bien commencé avant la date officielle. Donc, on peut comprendre que ce sera très, 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 très chaud.
Et il semble même que Didier Ratsirak, 81 ans, ancien président, veut revenir dans la course.
Oui, et sa candidature a été retenue. Ancien président, 81 ans, je crois qu'il a beaucoup de choses à dire. Je pense que c'est beaucoup plus par rapport à ce qu'il veut partager, qu'il se prétend être de nouveau candidat et surtout essaye de s'imposer dans le débat politique.
Est-ce qu'on peut dire que ces prochaines élections vont aider la Grande Île à sortir définitivement de toutes ces crises à répétition?
Pas tout à fait, parce que on a une crise de représentation à Madagascar qui se transforme par ailleurs en crise de gouvernement et bien évidemment la conséquence fatale est la crise de développement.
David Rajaraun, directeur du think tank e-Politica. Retour ici aux États-Unis, l'ancien chef de campagne du président Trump, Paul Manafort, a été jugé coupable pour fraude fiscale et bancaire. Michael Cohen, ancien avocat personnel de Trump, a plaidé coupable et a impliqué le candidat Trump dans une violation de la loi sur les financements électoraux. Didi Dico donne les détails.
Au total, Cohen a plaidé coupable de 5 délits de fraude fiscale, un de fraude bancaire et deux violations de la loi sur le financement des campagnes. À la sortie du tribunal, le procureur adjoint des États-Unis, Robert Kousami, a déclaré que ces accusations, en plus d'être graves, reflètent un schéma de mensonge et de malhonnêteté sur une longue durée.
Mr. Cohen pled guilty to two campaign finance charges.
Monsieur Cohen a plaidé coupable à deux accusations de violation de la loi de financement des campagnes, dont une pour avoir facilité une contribution illégale et l'autre pour une contribution personnelle excessive, toutes deux dans le but d'influencer les élections de 2016.
De plus, Michael Cohen a reconnu avoir acheté le silence de deux femmes dont les déclarations auraient pu avoir un effet négatif sur la campagne électorale du candidat Trump. À Washington, Paul Manafort a été reconnu coupable de 8 des 18 accusations de fraude. Des analystes ont expliqué à la VOA que les procédures judiciaires donnent une légitimité renouvelée à Robert Mueller, le conseiller juridique spécial en charge de l'enquête sur l'ingérence russe lors des élections de 2016.
The Mueller investigation has discovered the rot.
L'enquête de Mueller a révélé le linge sale de l'entourage du président. Bien que cette condamnation se fonde sur les engagements de Manafort avant la période Trump, elle démontre le genre d'activité et de personnes au cœur de la campagne Trump.
Le président Trump a déclaré que la condamnation de Manafort ne prouve aucune collusion entre sa campagne et la Russie. Mais les analystes soulignent que le deuxième procès de Manafort en septembre se penchera sur ses services de lobbying en faveur d'un gouvernement pro-russe en Ukraine. L'enquête a révélé que Manafort avait assisté à une réunion préélectorale à la Trump Tower, à laquelle participaient d'autres associés de Donald Trump et un avocat russe qui aurait partagé des informations préjudiciables sur Hillary Clinton.
Il est vrai que le fait de rechercher des informations louches sur un autre candidat fait partie de la politique, mais il n'est pas normal d'obtenir ce type d'informations d'une puissance adverse.
Des experts ont affirmé à la VOA que l'enquête menée par Mueller ne peut être considérée comme une chasse aux sorcières et que très bientôt, elle devrait prendre de la vitesse.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, tout universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout, comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de votre écoute. À la mise en onde, Georges et Léonard Sagnon. À la console, Pilar Henry. Eric Manirakis à la présentation. Reste en contact sur Facebook et sur votre site internet voafrique.com pour plus d'actualités 24h sur 24. Je vous retrouve à 19h30 pour la troisième édition. A tout à l'heure.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique.